Bonjour, je vais essayer donc en 15 minutes de vous exposer le site internet L'Histoire par l'image et en particulier les conditions dans lesquelles nous avons travaillé sur sa conception. Donc vous m'excuserez, je ne vous le présenterai pas sur internet même, mais à travers des PowerPoint, et je terminerai donc par des images de ce site relativement importantes. Alors ce site, nous l'appelons aussi l'art et l'histoire à la rencontre de ses publics. Et je ne saurais trop insister sur, en particulier, l'attention que nous avons portée au public. C'est pourquoi je vous exposerai en premier toute la recherche que nous avons menée sur les usages des nouvelles technologies en milieu muséal. Alors, c'est vrai que ce site est venu à l'issue de plusieurs années en fait, de recherche sur les usages des nouvelles technologies. Ce site a été mis en ligne, lui, à l'issue de cela, en novembre 2001, comme il a été en novembre 2001, et c'est un partenariat, en particulier entre nos deux ministères, le ministère de la Culture, Direction des Musées de France, Archives de France, et le ministère de l'Éducation nationale, qui aujourd'hui s'appelle le ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Il comprend plus de 90 musées de France et des archives. Il comprend aujourd'hui plus de 500 textes inédits avec un comité de lecture et en particulier dans ce comité des grands historiens de la recherche sur les images dans les musées, sur l'histoire. Et je vous citerai en particulier le président du comité de lecture qui est Maurice Agulon. Plus de 790 documents qui sont numérisés. Alors les fondements du projet, comme je vous le disais, c'est vraiment la recherche sur les publics. C'est-à-dire qu'appartenant à un département des publics, nous nous sommes penchés depuis plusieurs années sur l'intérêt qu'il y avait à comprendre nos publics, à les connaître mieux et en particulier à se pencher s'ils en avaient sur les besoins et leurs attentes. C'est vrai que depuis les années 90, notre recherche a porté sur les premières bornes interactives dans les musées, a porté ensuite sur les CD-ROM culturels que la Réunion des musées nationaux avait conçus, et ensuite sur les sites internet. C'est vrai que nous avons mené y compris des enquêtes pour voir le lien entre les musées réels et les musées virtuels. À l'issue de ces enquêtes, nous nous sommes rendus compte que les publics n'allait pas aussi spontanément que l'on veut bien le croire sur les sites culturels internet. Qu'en fait, lorsqu'on dit tous les publics, nous pensons, nous, en tout cas dans notre réflexion, qu'il faut d'abord cibler un type de public. Et c'est pourquoi nous avons fait ce qui peut paraître à la fois innocent et naïf, cibler le public, bien sûr, que nous connaissons le mieux, qui est le public de l'éducation nationale. Donc à partir de là, nous avons donc privilégié un public cible. Le public donc de l'éducation nationale, et que nous considérons bien évidemment comme les médiateurs auprès de nos publics jeunes et donc ceux qui sont à même de mieux fréquenter et connaître le patrimoine auprès de ce public. À partir de là, nous avons travaillé bien sûr avec eux en synergie complète entre le monde de l'enseignement, entre le monde de l'éducation nationale et le monde de la culture. Non seulement nous avons eu bien sûr un comité de pilotage dans lequel nous avons inclus les responsables au sein de l'éducation nationale, ce qu'on appelle les praticiens, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les institutions même, les écoles, les collèges, les lycées et même l'université, de manière à bien comprendre comment ils fonctionnaient, quel était leur travail et de quelle manière ils pouvaient nous exprimer leurs besoins. Et je dirais que dans ce projet, c'est cela qui a été le plus long. C'est-à-dire que ce travail en commun, qui était à la fois de respecter, nous, notre manière de penser et de travailler, et de réfléchir sur les œuvres qui sont dans nos musées, et la manière dont les enseignants, eux, avaient besoin que nous comprenions comment ils allaient les utiliser, soit dans un cadre scolaire, soit à domicile, pour préparer, effectivement, leurs élèves à la valorisation et à la connaissance de ce patrimoine. À partir de là, nous avons travaillé ensemble sur ce qu'on appelle, bien sûr, la lecture de l'image par la numérisation. Alors, la lecture de l'image, l'éducation à l'image, ça fait partie aussi, je dirais, des programmes ou de ce qu'on appelle, à l'intérieur des bulletins officiels, ce qui fait partie de l'enseignement de l'histoire. C'est pourquoi on a ciblé tout de suite aussi, non seulement l'éducation nationale, mais tout d'abord une discipline, la discipline historique. Alors, pourquoi cibler clairement une discipline d'abord, c'est parce qu'effectivement chez nous il n'y a pas d'enseignement d'histoire de l'art et c'est à travers l'enseignement de l'histoire que les enseignants de l'histoire commence à travailler sur les images du patrimoine. Et donc, il nous semblait que là, c'était la première méthodologie avec les enseignants que nous allons mettre ensemble sur pied. Alors, cette initiation à l'image, nous allions la faire sur une période, bien sûr, tout à fait déterminée. Il était impensable de la faire depuis la période préhistorique jusqu'à nos jours. Il faut, bien sûr, cibler d'abord une période que les uns et les autres nous connaissions bien et pour lesquelles nous avions beaucoup de documents et d'objets. Donc, nous avons, bien sûr, cerné la période 1789-1939 et qui, en fait, était représentative des programmes des secondes, premières, dans les établissements, les lycées, et quatrième dans nos écoles secondaires. Mais ce croisement que nous avons fait au programme, il ne s'agit pas d'illustrer par des images les programmes scolaires. Il s'agit là aussi de proposer, en fait, plus que cette illustration, de proposer réellement ce que nous avons appelé apprendre les images et non seulement apprendre à partir de l'image. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment s'est conçue à partir de là la structure du site. Alors, la structure du site, pour justement éviter l'écueil d'avoir l'image comme illustration de concepts historiques tels que travaillent en général les enseignants à partir de l'image, nous avons structuré le site de manière tout à fait normale en trois parties. Une partie qui est dédiée à un contenu éditorial, dont je vais vous expliquer que ce sont des analyses de documents, documents d'archives et des analyses d'œuvres, que ces œuvres soient des peintures, des dessins, des sculptures ou des estampes. Avec trois modes d'accès, un accès thématique, un accès chronologique et un accès par moteur de recherche ou par mots-clés, mais vous verrez plus que des mots-clés, ce sont des concepts en fait historiques. Une partie dialogue et communication, car cela est très important en particulier quand on travaille dans le monde enseignant, avec un forum, des thèmes animés par un modérateur. Et enfin, ce qu'on appelle un espace personnel, avec des outils qui sont mis à disposition de l'ensemble des internautes, puisque notre site est gratuit, et des enseignants, bien sûr, pour à la fois travailler, sélectionner leurs images, recomposer les textes, imprimer et diffuser dans leur réseau par Internet. Alors, l'arborescence thématique, vous allez voir que tout à l'heure, lorsque je vous présenterai quelques images du site, ça a été le fondement du projet. C'est-à-dire que pour nous, il ne s'agit pas seulement de mettre en ligne des images et un texte, il s'agit vraiment de donner un sens aux images que nous allons montrer, c'est-à-dire de le recontextualiser, bien évidemment. Et donc, ce cadre éditorial va être l'occasion de proposer à la fois trois parties, c'est-à-dire une recontextualisation historique par rapport à l'image qui est présentée, à l'œuvre ou au document d'archive, l'analyse de l'image elle-même, du point de vue aussi bien de l'historien de l'art que des arts plastiques, et enfin, ce à quoi on tient énormément, ce que l'on a appelé l'interprétation ou la signification de l'œuvre ou du document aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons voulu nous distinguer à la fois des manuels scolaires tels qu'ils sont faits, nous distinguer aussi des catalogues qui souvent sont plus descriptifs, dont l'objet est différent, dont l'objectif est différent, et ici, réellement, nous poser la question, aujourd'hui, quel est le sens, quelle signification on peut donner à cette œuvre, quel sens elle avait à l'époque et quel sens elle a aujourd'hui pour nous. C'est vrai que cette interprétation ne s'est pas fait sans mal, que cela a été réellement un travail de complémentarité entre à la fois les historiens de l'art et les conservateurs pour pouvoir accepter en même temps plusieurs points de vue, plusieurs interprétations. Et c'est cela que nous considérons effectivement comme le cheminement le plus riche quand il s'agit de parler des œuvres qui sont dans les musées. Alors avant de vous montrer les images, je passe un peu rapidement. Je voudrais simplement vous présenter les publics du site lui-même, l'histoire par l'image, puisque nous avions ciblé un public, il fallait qu'on sache un peu où nous en étions. Donc tout d'abord des chiffres, de statistiques. Et nous en sommes aujourd'hui, nous voyons sans arrêt une progression effectivement qui joue à la fois sur ce que nous mettons à leur disposition, les nouvelles images, les nouvelles études, une lettre d'information. Donc je parle moi toujours en termes de visiteurs uniques par mois, nous en sommes aujourd'hui à 30 000 visiteurs uniques par mois, donc nous avons vu que dans la galaxie des musées qui travaillent, qui sont sur le web, nous atteignons aujourd'hui, c'est vrai, une très grande proportion de visiteurs uniques, avec, bon, ce qui est un peu moins intéressant, 180 000 pages vues par mois. Mais surtout, ce que nous avons remarqué, c'est que chez nous, la durée moyenne de connexion est de 20 minutes, ce qui est tout à fait exceptionnel et ce qui montre qu'effectivement, et ça, on a pu le voir, que les visiteurs qui viennent consulter le site travaillent en fait sur le site. Alors, je pourrais vous dire aussi quelles sont les images ou les thèmes les plus consultés. En particulier, nous avons la prise de la Bastille, le sac de Napoléon Ier, la liberté guidant le peuple. Mais ce qui nous intéresse aussi, bien sûr, c'est la consultation en milieu scolaire et par les enseignants à domicile. C'est vrai que en milieu scolaire, nous avons constitué, enfin le ministère de l'Éducation nationale a mis à notre disposition un focus group, c'est-à-dire un groupe d'enseignants extrêmement motivés et qui ont commencé à travailler avec leurs élèves sur ce site. Cela est particulièrement intéressant et peut-être pour nous, parce que d'une part, ça permet de voir qu'il est extrêmement difficile de travailler en temps réel, je dirais, dans le cadre de l'enseignement, y compris de la discipline historique. Parce qu'il y a un programme, parce qu'il y a un temps limité pour effectivement travailler sur ce programme, et par conséquent, travailler en classe, en usage scolaire d'un site avec des images, cela prend un temps très long. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, nous-mêmes, nous ne vous branchons pas sur l'Internet de manière à ne prendre pas trop de temps. Mais dans la mesure où c'était une expérimentation, cela leur a permis considérablement d'élargir en fait eux-mêmes leur point de vue, c'est-à-dire de se former eux-mêmes à l'analyse de l'image, et par conséquent de travailler de manière thématique, aussi bien sur le travail des femmes, qu'est-ce que c'est que filmer la guerre, et d'élargir avec eux leurs connaissances sur ce secteur. Donc de fait, ce site constitue vraiment pour eux une formation à la fois à l'histoire et à l'histoire de l'art, comme jusqu'alors ils n'en avaient pas. Alors ce que je souhaiterais maintenant, c'est vous visualiser très rapidement et vous les commenter un peu, les images donc qui constituent notre site l'histoire par l'image, donc le deuxième PowerPoint. Je vais peut-être le dire en italien.
Credo che ci sia da far partire le immagini che erano state preparate per far vedere il sito, per favore.
Donc je vais revenir un petit peu à travers les images sur ce que je dirais qui a fait la dynamique du site, c'est vraiment la réflexion sur le contenu éditorial. Donc là, on me fait signe que j'ai très peu de temps, je vais juste vous visualiser très rapidement, si elles apparaissent, l'ergonomie du site, sur laquelle aussi nous nous sommes penchés, la navigation, qui est extrêmement simple, mais que vous ne pourrez pas voir, mais que je vous invite bien évidemment à voir, puisque l'adresse de notre site, c'est www.histoire-image.org. Donc, si vous voulez, nous avons essayé d'avoir une ergonomie extrêmement simple. Bon, ici, il s'agit, comme je vous le disais, de la recherche du contenu éditorial et de la recherche en particulier thématique, à l'intérieur desquelles nous avons une arborescence simplement à chaque fois à trois niveaux, de manière à ce que le visiteur ne se perde pas. Donc ici, je clique effectivement sur un thème. Ce sont des thèmes, ce sont des concepts, ce ne sont pas des mots descriptifs. Et par exemple, je clique sur République et je vois donc afficher un résultat de recherche avec les différentes images qui vont correspondre. Et à ce moment-là, ma recherche peut s'effectuer de deux manières. Soit je souhaite travailler sur une seule image ou un seul document qui va pouvoir effectivement m'intéresser, soit je souhaite travailler sur ce qu'on a appelé, nous, les études comparatives, c'est-à-dire que nous allons rassembler plusieurs œuvres, plusieurs documents, plusieurs images sur un même thème. Donc effectivement ici, nous travaillons sur le thème de la République et sur le thème de la République, nous voyons apparaître trois documents qui sont aussi bien un timbre-poste, qui sont deux œuvres qui effectivement nous montrent les signes et les symboles de la République. Donc ensuite j'arrive sur une page avec une vignette et le contexte et le cadre éditorial dont je vous parlais, c'est-à-dire le contexte historique, l'analyse de l'image et l'interprétation. Et j'ai effectivement, pour permettre à la fois au public et aux enseignants, des possibilités d'animation, soit animation visuelle, comme vous le voyez ici à travers les mots surlignés, qui vont au fur et à mesure permettre de faire apparaître des éléments du tableau. Alors, tout cela est identique pour la plupart, donc je vais passer très très vite à la fin. Pour vous montrer, donc là vous voyez un petit peu le style d'animation, ça c'est une animation sonore. J'avais exprès interrogé l'Italie pour vous montrer les documents que nous avions en rapport avec l'Italie. Donc nous avions de Degas la famille Bellelli, nous avions d'Eugène Delacroix bien sûr, Dante et Virgile. Pour vous montrer aussi que nous avons des documents d'archives qui eux sont parfois distingués mais parfois complètement en complémentarité. Et là nous avions le plan du port de Gravosa. Et pour terminer, ça c'est le plan du site tel qu'il se présente, avec effectivement un forum, une bibliothèque dans lesquelles nous mettons les dossiers des personnes qui le souhaitent et qui là sélectionnent les images et les textes et qui proposent en fait les dossiers qu'eux-mêmes ont repris. Et c'est tous ces éléments-là, c'est-à-dire le forum, le livre d'or et les dossiers à travers les bibliothèques, qui nous permettent de voir si nous avons bien ciblé notre public. Et je voudrais simplement terminer en disant que cette histoire, pour l'instant, qui reste française, de 1789 à 1939, notre souhait, bien évidemment, c'est de l'étendre à d'autres pays et d'avoir les différents points de vue, parfois sur les œuvres identiques, parfois sur d'autres œuvres, de ces pays, bien évidemment.